Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. En ce mois de décembre, nous parlons de la santé avec une émission sur les thèmes de l'alimentation et de la vaccination. C'est une diffusion des contes et fables réalisés par des jeunes d'école lormontaise et lus par des personnes du troisième âge, membres du Conseil des sages ou habitants de résidences de personnes âgées de Lormont. Très bonne écoute sur O2 Radio.
Les récits que vous allez entendre ont tous été écrits par des écoliers de Lormont. Quatre classes de deux écoles ont travaillé sur un recueil de bandes dessinées et de contes sur des thèmes de la santé, l'alimentation, la vaccination, l'activité physique. Bien sûr, vous n'aurez pas les bandes dessinées dans ce CD, car l'absence d'images se ferait cruellement sentir. Mais vous pourrez trouver tout l'imaginaire et toute la réflexion des élèves dans les contes qui vont suivre. Les aînés ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont accepté tout de suite de prêter leur voix pour habiller les contes des enfants. Entre les histoires des plus jeunes et les voix des plus âgés, une certaine alchimie s'est produite pour donner cet univers.
L'ours et le kangourou, fable lue par Yves Guyader.
Un ours, très fort, très grand et très musclé, ne trouvait plus d'adversaire pour se mesurer. De boxe, il était le plus grand champion. Le monde tremblait en entendant son nom. Un kangourou, fraîchement débarqué d'Australie, vint naïvement le défier. Il lui dit « Grand ours, votre réputation n'est plus à faire. Me ferez-vous l'honneur d'être mon adversaire ?» L'ours le regarda quelque peu moqueur. « Toi, me battre, un kangourou boxeur ?» Le kangourou retourna dans la forêt, suivit les conseils culinaires de Mama Fée. Il faut manger un peu de tout, mais sans excès. Et puis, bien dormir et ne pas oublier de bouger. L'ours préféra s'allonger dans son canapé, engloutir des chips et des boissons sucrées, suivre la voie tracée par Monsieur Surplus. On se vautre, on mange et on ne bouge plus. Sûr de sa force, l'ours ne se voyait pas perdre contre ce marsupial, ce petit boxeur en herbe. Quand le jour tant attendu du combat arriva, tous les animaux de la forêt étaient là. L'ours et le kangourou entrèrent sur le ring et le combat commença par King. Le kangourou courut dans tous les sens, épuisant l'ours qui resta sans défense. Le kangourou arrêta alors de courir, souffla sur l'ours qui tomba avec un gros soupir. Quelques semaines plus tard, d'être gros, l'ours en eut marre. Avec le kangourou, ils devinrent amis et firent du sport ensemble dans la forêt des Ouistiti. Souvent, ils allèrent voir Mama Fée afin d'avoir des conseils pour bien manger. Depuis, l'ours et le kangourou ne se quittèrent plus du tout.
Une histoire de chats et de légumes, Les faux amis, lue par Ginette Laroche.
Quentin est un chat. Il n'aime pas les légumes. Il préfère le chocolat et le sucre, et il est très mal dans son école des légumes. Ses amis l'énervent, car ils lui disent qu'il mange trop sucré, trop salé, et qu'il ne bouge pas assez. Notamment sa copine Lisa, la chatte, et Loncou, la girafe. Léo le gras, le lion, Ursule tout sucre, l'ours, Stiti de micelle, le gorille, Aldemar antisport, le paresseux. ses quatre faux amis arrivent à le convaincre de manger n'importe quoi et d'arrêter le sport. Et pour cela, rien de plus simple. Venir les rejoindre à l'école du sucre, l'école où on s'amuse et où on ne mange que des bonnes choses et on ne s'embête pas avec les leçons. En un mot, c'est le paradis. Quentin part à l'école du sucre, mais ses nouveaux amis ne viennent plus le voir. Ils recrutent d'autres élèves pour l'école. Quentin ne se sent pas très bien et ne peut plus sortir car c'est un internat. Il ne peut sortir que lors des grandes vacances. Quentin pense bien faire le mur, mais le mur est trop haut pour ce gros chat. Et ses amis lui manquent. Lisa et Loncou avaient raison sur tout. Parfois, Loncou vient regarder par-dessus le mur, sans se faire voir. Il constate que Quentin est de plus en plus gros, de plus en plus triste. Lisa décide de le sauver. Elle persuade Loncou de l'aider. Lisa arrive à faire passer un message à Quentin. Il faut qu'il vienne mardi prochain, après les cours et avant l'appel du soir. Le mardi, Lisa et Loncou viennent le chercher. Elles ont repéré comment faire. Loncou passe la tête derrière le mur. Tout semble calme. Personne ne fait attention à elle. Loncou baisse la tête jusqu'au sol. Quentin saute dessus et s'agrippe. La girafe le ramène du bon côté. Il est sauvé. Quentin retrouve son école. Il fait des efforts, travaille, fait du sport. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais Quentin est heureux. Finalement, le paradis n'est pas toujours où on le pense.
Mouchoir la souris, un conte lu par Yvonne Desmarques.
Il était une fois une souris qui s'appelait Mouchoir. Elle vivait dans une maison qui avait 5 trous de souris. Depuis le début, elle habitait dans le même trou, le premier qu'elle avait trouvé, et elle s'était installée là. Mais elle n'avait jamais visité les autres trous, car son arrière-grand-père lui avait raconté que dans chacun d'eux, il y avait un pays extraordinaire, et elle avait un peu peur de s'y aventurer. Pourtant, un jour, elle n'a plus rien à manger, plus de fromage dans la cloche à fromage. Alors, poussée par la curiosité et la faim, elle décide d'entrer dans le premier trou. Cric-crac-croc ! Elle passe par le premier trou. Elle arrive dans un pays, effectivement, extraordinaire. Il y a des arbres en forme de sucette, des champs de sucre, des maisons en forme de gâteau, des châteaux en chocolat. Un bonhomme de pain d'épices vient la voir pour lui faire goûter un bonbon au caramel. « Ah, c'est trop sucré !» Le bonhomme de pain d'épices lui tourne le dos, vexé. Cric-crac-croc ! La voilà qui part avec son ventre qui famine. Mouchoir passe maintenant par le deuxième trou. La souris se retrouve tout de suite dans un bateau en coque de cacahuètes. Le mât est un bretzel et la voile est en chips. Elle arrive en voguant vers le pays des apéros indiens. Là, un monster munch, un fantôme apéro, lui donne une frite. « Ah, c'est trop salé !» dit la souris. Le fantôme se met en colère. Cela déclenche une tempête. La souris s'en sort, mais difficilement. La bouche et les oreilles pleins de sel. Cric-crac-croc ! La voilà qui part avec le ventre qui gargouille. Cric-crac-croc ! La voilà dans le troisième trou. « Waouh ! » dit-elle, « ce pays est merveilleux. Les nuages sont en forme d'hamburger. Le soleil est lourd de chips et les arbres sont en forme de hot-dog. Et ils donnent des fruits qui ressemblent à des nuggets. » Au loin, elle voit une cascade d'huile et de la charcuterie qui poussent comme des champignons. Les arbres de Noël sont décorés avec des chapelets de sauce. Mouchoir rencontre un lutin, c'est un charcutier ventripotent. Il est très gentil en apparence, mais il a un couteau caché derrière son dos. Il aimerait se faire une souris frite pour le déjeuner, mais il cherche d'abord à engraisser la souris. Il lui tend donc un hamburger. « Ah, c'est trop gras !» dit la souris. Le lutin est en colère, il veut la poignarder. Elle se sauve en skate beurre. Le lutin glisse sur la traînée de beurre et la souris s'échappe. La souris mouchoir arrive dans le quatrième trou. Ce n'est pas du tout un pays extraordinaire, comme lui avait dit son arrière-grand-père, mais tout simplement une cuisine. Mais quelle cuisine ! Il y a de tout. Des pâtes, des pommes, des bananes, des carottes, du chocolat, des yaourts, du saumon, du riz, de la salade, des tartes aux fraises et aussi du fromage. La souris se dit alors que ce n'est pas la peine de partir si loin. Elle prend donc une brouette et rapporte à manger dans son trou bien à elle, qui, heureusement, communique avec la cuisine. Arrivée chez elle, elle se prépare un festin en évitant de mettre des ingrédients trop gras, trop sucrés, trop salés. Puis, épuisée de son périple à travers tous les trous de la maison, elle va se coucher pour une bonne semaine. Et tout est bien qui finit bien.
Thomas et la sorcière, histoire racontée par Yves Guyader.
Thomas n'aime ni les fruits, ni les légumes, ni le sport. Ses parents l'obligent à aller au football. Là, comme il n'aime pas faire du sport, il ne fait aucun effort. Il ne s'entraîne pas bien, il traîne plutôt qu'autre chose. Les jours de match, forcément, Thomas fait du banc. Il est toujours remplaçant et n'entre sur le terrain que très rarement. Il reste sur le banc, il a froid, il s'ennuie et quand il pleut, il est trempé. Un jour qu'il rentrait chez lui, frigorifié, trempé, fatigué et traînant un ennui pire que les autres jours, il rencontre une sorcière, une vieille sorcière. Elle lui demande comment il va et ce qui lui arrive. Thomas lui dit qu'il voudrait ne plus être fatigué, ne plus avoir froid, ne plus s'ennuyer. Celle-ci le regarde, puis lui dit « Écoute, ce n'est pas normal qu'un enfant comme toi soit dans l'état dans lequel tu es. Tu devrais jouer, rire, manger, t'amuser. À mon avis, une méchante sorcière t'a jeté un sort. » Thomas est étonné. La sorcière ajoute « Je vais t'aider, nous allons conjurer ce mauvais sort. » Thomas ne savait pas ce que voulait dire « conjurer ». Mais la sorcière lui paraissait gentille. « Que dois-je faire ? » lui demanda-t-il. « Tu as fait 3 vœux, » répondit-elle. « Ne plus être fatigué, ne plus avoir froid, ne plus t'ennuyer. » « Je vais donc exaucer ces 3 vœux. Contre la fatigue, tu vas manger des fruits car tu as besoin de vitamines. Contre le froid, tu vas manger des légumes, de la viande, du poisson, bref, tout ce que ta maman te prépare, car il faut manger rééquilibré. Contre l'ennui, tu vas faire de l'exercice physique, t'amuser avec tes copains, que ce soit au football ou ailleurs. Tu vas lire, aller au cinéma, travailler à l'école, bref, bouger dans ta tête aussi. Thomas rentre chez lui, persuadé que la gentille sorcière l'a désensorcelé. Grâce à elle, il aime manger des fruits et des légumes et aussi faire du sport. La maman de Thomas est allée rendre le costume de sorcière à son amie la voisine. Ce costume qui a si bien marché lorsque Léo, le fils de la voisine, ne voulait pas manger de fruits ni de légumes. Depuis, Léo et Thomas sont devenus amis. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi leur mère a ses regards amusés lorsqu'ils se retrouvent tous autour d'un bon plat de légumes.
Une tomate exceptionnelle dans Super Tomate, lue par Robert Anthony.
En allant à l'école, 3 amis se retrouvent face à une bande menaçante. C'est la bande à Grace Killer. Cette bande s'attaque systématiquement à tous les enfants. une bande faite de gras, de sel, de sucre et d'une grosse dose de paresse. Grace Killer attaque les trois amis. C'est normal puisqu'ils sont six dans la bande. Six gros tas de graisse, bêtes et méchants lorsqu'ils sont les plus nombreux. Lorsque les trois amis arrivent à l'école, non seulement ils arrivent en retard, mais en plus, ils sont pleins de graisse, gluants et sales. La maîtresse les punit, surtout à cause de leur excuse ridicule, attaquée par Grace Killer et sa bande. Pourquoi ne pas faire appel à, je ne sais pas moi, Super Tomate pendant que vous y êtes ? Se moque la maîtresse, une rainette un peu fripée. Sur le chemin du retour, les trois amis sont déprimés. Ils ne savent pas comment faire pour sortir de cette situation. Demain, Grace Killer et sa bande vont certainement les attendre pour recommencer. « Mais je peux vous aider, moi !» dit une voix forte. Les trois amis relèvent la tête. « Super Tomate, il est là ! Il existe vraiment !»« Voilà ce que nous allons faire !» Le matin, Grace Killer et sa bande arrivent tout contents du tour qu'ils vont encore jouer aux trois amis. Pour leur échapper, les trois amis se mettent à courir le plus vite possible. Soudain, ils tournent dans une rue. C'est une impasse. Derrière eux, Grace Killer et sa bande les regardent. Ils rigolent et se moquent. Les trois amis ont le dos au mur et la bande se rapproche.
Ha 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 ! Ricane Grace Killer. On va vous attraper, bande de nazes !
Au moment où Grace Killer pousse son cri de guerre, un autre cri lui répond. Il lève la tête surpris. Trop tard. Super Tomate, au-dessus du groupe, vient de jeter un filet. En quelques secondes, la bande de Killer est immobilisée. Ils essayent désespérément de se détacher, mais plus ils gigotent, plus ils resserrent leurs liens. Les trois amis arrivent à l'école tranquillement. La maîtresse est là, contente. Alors, vous avez fini avec cette histoire de graisse machin chose ?
« Oui, c'est fini, » disent-ils en chœur, « grâce à Super Tomate !»
La maîtresse les regarde, désolée. « Oh non, quand ce n'est pas la graisse, c'est Super Tomate !»«
Eh oui !»
fait une voix au-dessus d'elle. La maîtresse lève la tête.
« Super Tomate est là ! Il dépose le filet avec Grace Killer et sa bande.
« Ah, vous voyez, on ne vous a pas menti, » dirent les amis. Mais la maîtresse ne les entend pas. La petite pomme rainette est tombée dans les pommes.
L'histoire d'un très gros roi qui ne faisait jamais de sport, le roi Flemmard, un conte lu par Albert Verdier.
Il y a très longtemps, vivait un roi qui s'appelait le roi Flemmard. Il était très gros car il ne faisait jamais de sport. Son activité principale, manger. Un jour, il reçut un SMS de la princesse dont il était amoureux. Elle lui demandait de se rendre dans son palais pour subir des épreuves afin de choisir son futur mari. Le rival du roi Flemmard était le roi sportif, un roi mince, musclé, mais très prétentieux. Le roi Flemmard était impatient de rencontrer la princesse. Quand il voulut se lever, le trône resta coincé sous ses fesses. Mais le roi s'en moquait et descendait des escaliers avec précipitation. Il trébucha et roula jusqu'en bas, tout endolori, la couronne de travers. Il appela ses serviteurs qui lui apportaient un escabeau pour monter sur le cheval. Le roi était tellement gros que le cheval s'écroula sous le poids. Quand il remonta au château, il courut vers son miroir et se regardait pour la première fois. De l'autre côté, il se vit énorme et petit, alors que d'habitude, il se voyait mince et grand. Il tenait tellement à la princesse qu'il pouvait faire n'importe quel effort. Il ne voulait pas qu'elle épouse ce froussard de roi sportif. Il décida de faire du sport et de manger équilibré. Au programme, courses, séances d'abdominaux, natation dans les douves, haltères, mais aussi 5 fruits et légumes par jour en quantité raisonnable. Fini les montagnes de frites, de hamburgers, de glace. Au bout d'un mois d'entraînement, le roi remonta son t-shirt et vit des bosses sur ses bras, sa poitrine. Il courut vers son miroir, il était musclé. Il téléphona à la princesse pour lui dire qu'il était prêt à affronter le roi sportif. Il partit au grand galop vers le château de la princesse. Les deux princes arrivèrent en même temps. Le roi sportif dit au roi flemmard, « Je vais te ratatiner !» Ce dernier lui répondit, « C'est ce que l'on va voir !» Après l'épreuve de natation, ils étaient ex aequo. La deuxième épreuve était la course, égalité. Le roi sportif était en rage. Pour les départager, la princesse leur imposa une troisième épreuve, l'épreuve de la vérité, faire fuir le dragon. Les deux princes s'éloignèrent à cheval et s'enfoncèrent dans la forêt, chacun de son côté. Ils arrivèrent en même temps devant le château hanté du dragon. Celui-ci, qui les avait vus de loin, crachait des flammes par-dessus les murailles. Le roi sportif tremblait de peur, claquait des dents. Il criait à son cheval de reculer. Le dragon sortit du château et se trouva face à face avec les deux rois. Il cracha une flamme en direction du roi sportif qui partit en courant et en hurlant de douleur. Il sauta dans les douves, la tête à la première pour éteindre l'incendie. Avant que le dragon ne l'attaque, le roi flemmard lui cria « Hé ! Tu as une sale tête, tu es énorme. Si tu continues à manger comme ça, tu vas exploser. » Le dragon, surpris, s'envola et fit signe au roi de le suivre. Il le conduisit à sa cachette, lui convia son trésor pour le remercier d'avoir eu le courage de lui dire la vérité. Il lui promit de faire du sport et de manger équilibré. Le roi flemmard, vainqueur, galopa vers le château de la princesse avec le trésor. Elle l'attendait avec impatience. Ils s'embrassèrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants sportifs.
Histoire de la souris qui ne voulait plus manger de fromage, Mimi Madeleine, par Yvonne Desmarc.
Il était une fois une petite souris qui s'appelait Mimi Madeleine. Sa maison était construite dans une ferme. Un jour, elle traîne un magazine dans son trou. Sur la couverture, il y avait des cookies. Elle se dit que ça doit être bon. Tout à coup, l'horloge sonne. Tiens, c'est l'heure de mon jogging. Eh oui, notre souris est très sportive. Tous les jours, entre 11h et 12h, puis entre 14h et 16h, elle va dans une salle de sport pour les souris ou alors elle va courir autour de la ferme. En rentrant de la salle de sport, elle ne peut s'empêcher de penser aux cookies. Elle se dit qu'elle devrait peut-être goûter autre chose que du fromage. Elle prend son petit baluchon et part en voyage. Comme toutes les souris, elle aime le fromage, mais Mimi Madeleine voudrait goûter de la nourriture variée. Sur le chemin, elle voit une affiche montrant des côtes de porc et ça lui donne envie. Elle marche un peu et bientôt, elle voit une mare et s'approche du bord intriguée. Mimi Madeleine rencontre alors le vilain petit canard. Elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu manges ?» Le vilain petit canard lui répond « Je mange du maïs. » Mimi Madeleine dit « Oh, si je goûtais !» Elle goûte et dit « Ah, c'est trop dur. Si je devais manger ça tous les jours, ça serait l'enfer. » Et elle s'en va à la rencontre d'autres personnes et à la recherche d'autres nourritures. Un peu plus tard, elle s'enfonce dans la forêt. Mimi Madeleine rencontre alors le petit chaperon rouge. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu manges ?» Le petit chaperon rouge répond « Je mange de la galette et du beurre. » Mimi Madeleine dit « Oh, si je goûtais !» Elle goûte et dit « Beurre, c'est trop riche. Si je devais manger ça tous les jours, ce serait l'enfer. » Elle s'en va encore à la rencontre d'autres personnes et à la recherche d'autres nourritures. Peu après, elle se retrouve sur la plage et elle rencontre la petite sirène et elle lui dit « Qu'est-ce que tu manges ?» La petite sirène lui répond « Je mange des poissons et des crustacés. » Mimi Madeleine dit « Oh, si je goûtais !» Elle goûte et dit « Oui, c'est trop gluant. Si je devais manger ça tous les jours, ce serait l'enfer. » Et elle s'en va une nouvelle fois à la recherche d'autres personnages et d'autres nourritures. Un peu plus tard, elle va dans un village pour se reposer et elle tombe sur Jacques et son haricot magique. Et elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu manges ?» Jacques lui répond « Je mange des haricots. » Mimi Madeleine dit « Oh, si je goûtais !» Elle goûte et dit « Pouah, c'est trop croquant. Si je devais manger ça tous les jours, ce serait l'enfer. » Et elle s'en va encore une fois à la rencontre d'autres personnages et d'autres nourritures. C'est alors que Mimi Madeleine arrive dans un grand château. Elle rencontre le chat empâté qui porte de grosses bottes. Elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu manges ?» Le chat lui répond « Je mange des souris !» Mimi Madeleine s'écrie « Des souris ? Oh, je connais pas !» Et elle disparaît. Le chat empâté veut alors la rattraper, mais vu sa lourdeur et ses bottes, il tombe tous les trois pas. Mimi Madeleine arrive enfin chez elle, essoufflée. Elle a eu très peur. Une fois calmée, elle se remet à manger son fromage et elle se dit que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour elle. Pendant ce temps, le chat abandonne ses recherches et décide de rentrer. Mais aujourd'hui, on raconte qu'il est encore sur le chemin du retour au château.
La mouche, lue par Yves Guyader.
C'est l'histoire d'une mouche qui s'appelle Jean. Pour la première fois de sa vie, elle veut se faire vacciner pour l'année afin de ne pas attraper des maladies comme la grippe. La grippe de la mouche étant une maladie particulièrement dangereuse. Elle recherche un docteur pour cela. Jean la mouche va voir un premier docteur en tremblant de peur. Le docteur, qui est une grenouille, lui dit « Bonjour, qu'est-ce qui vous amène dans mon cabinet ?»« J'ai besoin d'un vaccin pour l'année. » Venez vous asseoir en face de moi pour régler tout ça. Jean la mouche dit dans sa tête « Oh zut, crotte, flûte, cette grenouille veut me manger, m'avaler, me croquer. » Et bzzz, la voilà qui s'en va. Jean la mouche va voir un autre docteur, pas rassuré du tout. Le docteur, qui est une araignée, lui dit « Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive ?» « J'ai besoin d'un vaccin pour l'année. Bon, venez vous asseoir. Nous allons voir ça. » Jean la mouche dit dans sa tête « Oh zut, crotte, flûte, elle veut aussi me manger, me croquer, m'avaler. » Et bzzz, la voilà qui s'en va. La mouche va chez un nouveau docteur effrayé et inquiète. Cette fois, le docteur est un caméléon. Le docteur lui dit « Qu'est-ce que vous avez ?» « Je veux me faire vacciner pour l'année. Venez vous asseoir pour regarder ça. » Jean la mouche dit dans sa tête « Zut, crotte, flûte, au secours, ce docteur veut me manger, me croquer, m'avaler. » Et bzzz, la voilà qui s'en va. Et la voilà tout effrayée à la recherche d'un nouveau docteur. Elle commence à se dire qu'elle va renoncer à sa vaccination, quitte à prendre le risque d'attraper la terrible grippe de la mouche. Mais rien qu'à cette idée, elle est horrifiée. Sur le chemin, elle voit un crapaud à lunettes et à cheveux qui est en train de pleurer. Jean se demande ce qu'il a, mais ne lui parle pas. Et comme elle commence à être énervée, elle dit plutôt « Tu veux me manger, toi aussi, hein ? Eh bien, si c'est ça, au revoir !» « Ah non, ne pars pas, sniff, sniff !»« Et pourquoi pas ?»« Parce que je ne suis pas un vrai crapaud, sniff, sniff !»« Ah bon ?»« Oui, c'est la vérité, sniff, sniff !»« Bzzz !» !»« Et hop, hop, re-hop, bric, brac, broc !» dit Jean tout étonné de ce qu'elle entend. À ces mots, le crapaud se transforme en femme, une véritable infirmière, habillée de blanc avec des longs cheveux et des lunettes rondes. En effet, un mauvais sort l'avait transformé en crapaud. Et sans le savoir, Jean venait de prononcer la formule magique qui permettait de rétablir la situation. « Et maintenant, je peux te faire ton vaccin, » dit la femme. « Mais comment as-tu deviné que je venais pour ça ?»« Oh, j'ai deviné avec ta tête. »« Bon, d'accord, je veux bien. Toi, au moins, tu ne voudras pas me manger. » Elles rigolent ensemble. La mouche se fait vacciner et bzzz, voilà comment l'histoire se finit.
Les vaccins, une histoire racontée par Yves Guyader.
Il était une fois un gorille très musclé, mais très froussard. Il avait une peur bleue des piqûres. Un jour, il tomba malade et dut consulter un médecin. Dans la salle d'attente, beaucoup de monde attendait son tour. Il y avait une girafe, un guépard, des singes, un crocodile, une grenouille, un aigle et même une petite souris. Toutes les chaises étaient occupées. Le gorille se dirigea vers la grenouille. Il la regarda fixement et lui dit « Sors d'ici, je crois bien que tu es à ma place !» La grenouille céda la place au gorille. Tout le monde baissa la tête. Le silence emplit la pièce. Un peu plus tard, la porte s'ouvrit. Un lion, boitant, appuyé sur une paire de béquilles, sortit du cabinet du médecin. Une grosse voix dit « Au suivant !» Le guépard commença à se lever quand une grosse main lui enfonça la tête entre les épaules et le força à s'asseoir. Avant qu'il ait pu réagir, le gorille pénétra dans le cabinet et ferma la porte. Le médecin, un gros éléphant savant, demanda au gorille ce qui l'amenait. Le gorille lui répondit d'une voix plaintive qu'il avait la grippe A, la grippe H1N1, la grippe B et les suivantes, et probablement toutes les autres. Bref, qu'il était très malade. Le médecin se leva et alla consulter ses fiches. L'éléphant remarqua que le gorille ne s'était jamais fait vacciner.
« Oh là là, dit-il, mais il faut te faire vacciner. Tétanos, polio, rubéole et tout le reste. Je vais te préparer un cocktail de tout ça. »
Le gorille s'enfonça dans son siège. Il commençait à regretter d'être venu voir le médecin. Finalement, il n'était pas si malade. Le médecin se retourna. Il tenait une seringue dans la main droite, une grosse seringue. Une énorme seringue, pensa le gorille. Et qui dit énorme seringue, dit énorme aiguille. Le gorille bondit de son siège en criant « À l'aide ! Au secours !» Il avait déjà la main sur la poignée de la porte quand le médecin l'attrapa par le cou. L'éléphant ramena le gorille sur son siège. « Au secours ! Sortir ! Je veux sortir ! Laissez-moi sortir !» hurlait le gorille en se débattant. Le médecin lui parlait, mais son patient ne voulait rien entendre. Le gorille criait, hurlait, vociférait, s'époumonait, bref, beuglait. « Je veux pas qu'on me la fasse ! Je veux pas qu'on me la fasse !» L'éléphant alla jeter la seringue dans une poubelle spéciale, un récupérateur de seringues. Il se tourna vers le gorille. « Qu'est-ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse ? » demanda-t-il. Le gorille commença à se calmer. La seringue n'était plus un danger pour lui. Quand il put à nouveau parler, il expliqua. « La piqûre, je veux pas qu'on me la fasse, j'en ai pas besoin. » Il croisa les bras, regarda le docteur et ajouta. « Je suis assez fort pour ne pas me faire vacciner. » Le médecin le regarda. « Décidément, vous ne changerez jamais !» Le gorille reprenait du poil de la bête. « Peut-être, mais je ne voulais pas de piqûre et j'en ai pas eu. » Le médecin éclata de rire. « Ha 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 !» Le gorille l'observa un peu inquiet. L'éléphant se calma à moitié.
« Mais mon pauvre gorille, au milieu de tes hurlements. Tu n'as même pas senti que je t'ai vacciné. Le gorille se trouva tout bête. L'éléphant lui ouvrit la porte du cabinet. Le gorille penaud traversa la salle d'attente. Le silence était complet, mais les regards des patients, bien goguenards, ils avaient tout entendu. « Au suivant !» dit l'éléphant en s'asseyant sur son fauteuil. Il riait encore de la peur de ce grand gaillard de gorille pour une si petite aiguille. Comme personne ne semblait venir, il cria à nouveau « Allons, au suivant !»« Je suis là, docteur, » dit une toute petite voix. Le médecin se leva légèrement de son siège pour voir son patient. Une adorable petite souris, les moustaches frétillantes, le regardait de ses yeux brillants. Pris d'une soudaine panique, l'éléphant perdit tout contrôle et sauta pour s'accrocher au lustre. Il s'y agrippa de toutes ses forces et s'entendit hurler « Au secours ! À l'aide ! Je veux sortir !»
Qu'y a-t-il donc au fond des puits ? La sorcière et le puits, un conte lu par Annie-Gabrielle Clairet.
Sabrina est une sorcière, une gentille sorcière. Depuis longtemps, elle cherche un puits, mais pas n'importe quel puits, un puits magique. Elle part dans la forêt comme tous les jours. Mais aujourd'hui, elle trouve des ronces et des branches qui semblent cacher quelque chose. Elle s'approche. Sabrina finit par trouver un petit passage. Et derrière ses ronces et ses branches apparaît le puits magique. Sabrina est très contente. Elle sait que maintenant, ce sera un jeu d'enfant, d'enfant sorcier, et de trouver les deux autres. La jeune sorcière se penche par-dessus et regarde l'eau. Soudain, elle voit le visage d'un jeune garçon. Le jeune garçon a l'air surpris. Sabrina s'écarte du puits.
Peter reste étonné. En allant chercher de l'eau pour arroser son jardin, il a soudain vu apparaître furtivement le visage d'une belle jeune fille. Pensivement, il fait descendre le seau, mais le visage ne se montre plus.
Grâce à ses pouvoirs, Sabrina a retrouvé le deuxième puits. Elle arrive près du jardin de Peter. Elle découvre un garçon qui ressemble à tout, sauf à un sorcier. Et de plus, il ressemble surtout à quelqu'un de très gros. Et le voyant arroser ses arbres à bonbons et son potager de hamburgers géants, elle comprend pourquoi. Peter lève la tête. Il voit Sabrina qui le regarde. « Et c'est toi que j'ai vu dans le puits, » dit-il. « Mais je ne suis jamais allée dans le puits, » répond-elle. Sabrina est étonnée. L'image qu'elle a vue est celle d'un garçon mince et élancé. Et dire que le puits doit refléter des images de l'avenir. Peter est bien plus gros. Pourtant, c'est le même visage. Peter appelle. « Si je viens voir, je t'ai vu là. » Peter et Sabrina se penchent. Effectivement, il y a bien les deux reflets, mais pas la tête supplémentaire. Alors, il se penche et tombe. Il tombe, mais comme s'il tombait vers le haut. Il voit de la lumière, puis le ciel, et enfin il arrive dans le puits. Mais un puits qui ne ressemble pas à celui de chez Peter. « Je sais où il est, » dit Sabrina, persuadée de se retrouver dans son puits de la forêt. Rapidement, elle monte, suivie par Peter, mais beaucoup lut lentement. C'est un gros effort que de remonter le long de la corde. Sabrina sort la première, mais à la place des ronces et des arbres, elle se retrouve à l'intérieur de la cour d'un château. Aussitôt, des bruits éclatent, ils sursautent. Des volets claquent aux fenêtres, des chats miaulent, des cris retentissent. Sabrina et Peter ont peur. Sabrina, la petite sorcière, encore plus que Peter, car elle sent que cet endroit est maléfique. « J'ai une idée, dit-elle. Courons. » Mais Peter traîne. Il ne peut pas courir aussi vite que Sabrina. Alors que Peter s'approche des portes pour sortir de la cour, celle-ci commence à se refermer. Sabrina sort sa baguette. Et tant pis si Peter se rend compte de quelque chose. D'un sort, elle fait se rouvrir les portes. Peter est très étonné. Mais il profite de l'aubaine et ne cherche pas à comprendre. Ils sortent tous les deux et s'enfuient à toutes jambes. Enfin, des jambes de Peter. Dans leur dos retentit un cri affreux. C'est la méchante sorcière. Au bout de quelques dizaines de mètres, Peter s'écroule à bout de souffle. Il n'en peut plus. Il souffle comme un phoque et a mal partout. « Si tu étais plus sportif, tu serais plus tranquille. Et moi aussi, lui dit Sabrina. » En effet, ils sont toujours à la merci de la vieille sorcière. « Promis, répond Peter. « Si on s'en sort, je te promets de faire du sport et d'arrêter de manger n'importe quoi. »« D'accord, lui dit Sabrina, suis-moi. » Sabrina l'emmène dans la forêt, au milieu des ronces et des branches. Ils plongent tous les deux dans le puits et ressortent dans le jardin de Peter.
Peter, très essoufflé, met de longues minutes avant de se remettre de ses émotions.
Sabrina se lève et demande à Peter. « Veux-tu que je t'aide à maigrir ?»« Oui, dit Peter. D'accord, je vais t'aider à faire du sport et à manger équilibré. » Alors, avec Sabrina, Peter fait du sport. Ils jouent beaucoup au handball, ensemble. Dans son potager, Peter arrache les arbres à bonbons. C'est les hamburgers géants. À la place, il plante des pommiers, des cerisiers, des fraisiers, des pieds de tomates, des salades, des pommes de terre. 3 mois plus tard, le pari est réussi. Peter a maigri, Sabrina lui dit. « Maintenant que tu es mince et que tu ressembles au reflet que j'ai vu dans le puits, j'ai un secret à te révéler. Je suis une sorcière. Et comme tu m'as vu dans le puits, cela veut dire que toi aussi tu es un sorcier. » Mais que tu ne le sais pas. Veux-tu que je t'aide à devenir sorcier ? Oui, dit Peter. Alors, Sabrina apprend à Peter tout ce qu'il doit savoir. Peter travaille beaucoup, fait beaucoup d'efforts. Et même s'il se décourage quelquefois, il ne renonce jamais. Maintenant, Peter est un vrai sorcier. Et comme tous les sorciers, il doit subir une épreuve. Peter doit débarrasser le château de la vieille et méchante sorcière. Peter s'en va seul, un peu inquiet, mais plein de courage et d'espoir. Sabrina l'attend, car un vrai sorcier doit surmonter ses épreuves tout seul. Lorsqu'il revient du château, Sabrina l'accueille avec joie. Peter l'amène près du puits. Au fond, la méchante sorcière est enfermée. Furieuse, prisonnière. Comment Peter a-t-il fait ? On ne le saura pas, car les sorciers ne donnent jamais leurs secrets, sauf à un autre sorcier ou à une autre sorcière. Ce que l'on sait, c'est que Peter et Sabrina sont devenus de très grands amis sorciers pour la vie.
Le cauchemar de Dorian, histoire lue par Ginette Laroche.
Dorian est un petit garçon de 12 ans qui adore faire du sport. Mais il y a une chose qu'il n'aime pas par-dessus tout, les fruits et les légumes. Un jour, les parents de Dorian firent un potage de légumes. Comme il refusait de manger, ses parents lui dirent qu'ils allaient le priver de match. Dorian mangea son potage de légumes sans aucune envie, mais put aller jouer son match. En rentrant, pour se venger de ses parents et des légumes, il mangea n'importe quoi dans le frigo. Puis il alla se coucher. En pleine nuit, Dorian eut très soif. Il se leva pour aller dans la cuisine. Jamais le couloir ne lui avait paru aussi long. Dès qu'il ouvrit le frigo, il tendit la main vers une bouteille de soda. Soudain, la bouteille explosa. Un tsunami de soda l'emporta au fond de la cuisine où l'attendait une armée de hamburgers géants équipés de pistolets à ketchup ultra modernes. Dorian plongea sous la table. Enfer ! Un bataillon de chips carnivores s'apprêtait à lui sauter dessus. D'un bond, Dorian esquiva l'ennemi. Il mit le pied sur un pot de mayonnaise piégé qui éclata. Dorian glissa jusqu'à l'évier où se tenait en embuscade une escadrille de plaquettes de chocolat volant. Ils l'attaquèrent à grand renfort de missiles sucettes enragés. Au loin, Dorian vit la porte de la cuisine, la sortit. S'il réussissait à l'atteindre, il était sauvé. Il se mit à courir, attaqué par tous les locataires du frigo. La porte approchait, mais plus elle approchait, plus Dorian grossissait. Lorsqu'il arriva devant la porte, il était si gros qu'il ne pouvait plus sortir. Il se retourna et le tsunami de soda le recouvrit entièrement. Dorian fut pris dans un tourbillon de chocolat noir à la bonne graisse animale. Lorsqu'il put ouvrir les yeux, il se retrouva assis sur son lit, couvert de transpiration et assoiffé. Dorian alla avec précaution dans la cuisine, tout semblait normal. Il ouvrit doucement le frigo, il jeta prudemment un œil. Rien ne semblait avoir bougé. Dorian prit un jus de fruits. Tout allait bien. Depuis ce jour, Dorian mange équilibré et ne fait plus de cauchemars.
Le guépard qui ne savait pas chasser. Charles-Édouard le guépard, lu par Albert Verdier.
Il était une fois un bébé guépard qui s'appelait Charles-Édouard. Il vivait en Afrique, au Kenya, dans la savane avec sa mère. Sa maman s'appelait Marie-Antoinette. Elle lui avait toujours donné à manger et ne lui avait jamais appris à chasser car elle avait très peur pour lui. Avec le temps, Charles-Édouard a pris beaucoup de poids. Il pèse maintenant 80 kilos et il est obèse. Un jour, sa mère décide de l'envoyer chasser car elle le trouve vraiment trop gros et, même si elle a encore peur, elle pense qu'il a atteint l'âge de chasser seul. Mais c'est un peu trop tard. Il est bien trop gros et bien trop lent. Il n'attrape rien et rentre bredouille. Sa maman a alors une idée. Elle lui dit de demander de l'aide aux animaux de la savane qui chassent. Charles-Édouard va d'abord voir Léo Napoléon, le lion, pour lui demander de lui apprendre à chasser. Mais le lion se moque de lui. Il lui dit « T'es qui, toi? T'es quoi, toi? Un phacochère? Un éléphant ?» Triste et déçu, il part en pleurant, le ventre vide. Une fois calmé, Charles-Édouard va voir Élise Hélène, la hyène, pour lui demander de lui apprendre à chasser. Mais la hyène se moque de lui et dit « T'es qui, toi? T'es quoi, toi? Un hippopotame? Un rhinocéros ?» Triste et déçu, il part en pleurant, le ventre encore vide. Une fois calmé, Charles-Édouard va voir Jean-Cyril, le crocodile, pour lui demander de lui apprendre à chasser. Mais le crocodile se moque de lui. Il dit « T'es qui, toi? T'es quoi, toi? Un buffle? Un dinosaure ?» Triste et déçu, il part en pleurant, le ventre toujours vide. Une fois calmé, Charles-Édouard rencontre une guéparde qui s'appelle Jeanne Charlène. Elle ne se moque pas de lui, elle console. Elle lui dit « Je vais bien t'apprendre à chasser ». Charles-Édouard et Charlène parcoururent ensemble à la savane. Ils chassent ensemble de nombreux animaux pour se nourrir. Des gazelles, des zèbres, des oiseaux. Charles-Édouard est maintenant devenu mince et agile à force de courir dans la savane. De plus, il mange toujours à sa faim et n'a plus besoin de personne pour trouver à manger. Charles-Édouard et Jeanne Charlène sont maintenant les meilleurs coureurs et les plus rapides de la savane. Marie-Antoinette les rejoint et félicite son fils. Nos deux guépards, Charles-Édouard et Jeanne Charlène, sont très heureux et à ce qu'on dit, ils ont beaucoup d'enfants. Et bien sûr, ils auront appris à chasser.
Les deux princes, une histoire de jumeaux qui ne se ressemblent pas du tout, mise en voix par Roland Aubriot.
Les deux princes. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un grand château fort. Le couple avait deux enfants, deux fils, deux jumeaux. Ils s'appelaient Arthur et Gobert. La contrée était calme, tout le monde vivait en paix, personne ne manquait de rien. Pourtant, le roi et la reine étaient malheureux. En effet, les deux princes faisaient n'importe quoi et mangeaient n'importe comment. Le prince Gobert était gros, énorme même. Il mangeait tout le temps et ne faisait jamais de sport. Le prince Arthur était très maigre. Il ne mangeait presque rien et courait dans tous les sens. Ses parents avaient peur lorsque le vent soufflait qu'il s'envole et disparaisse. Un jour, il avait fallu qu'un serviteur monte dans un arbre pour le décrocher. Désespéré, ne sachant plus quoi faire, les parents décidèrent de faire appel à une fée. Ils envoyèrent leur plus beau carrosse et leur plus élégant équipage chez la fée Chloé. La fée les écouta attentivement. Elle réfléchit un peu, puis accepta de les aider. Sur ses conseils, la reine et le roi organisèrent une grande fête. Il y avait des jongleurs, des clowns, des baladins. Il y avait aussi à manger et à boire. Beaucoup de jeux furent organisés. La fée Chloé se déguisa en jeune femme. Elle proposa aux deux princes de jouer à Colin Maillard. Les deux princes acceptèrent. La fée leur banda les yeux. Arthur commença à courir partout. Gobert, lui, marchait tranquillement en dégustant des sandwichs, des hamburgers, des gâteaux, des hot-dogs, des bonbons. Chloé prit discrètement sa baguette et jeta un sort. Les deux princes se trouvèrent attirés par une force extérieure qui les propulsa l'un contre l'autre. Ils se rentrèrent dedans violemment. Sous le choc, Gobert et Arthur tombèrent assis sur l'herbe. Leurs deux esprits flottaient au-dessus de leur tête. Soudain, les deux esprits se mirent à tournoyer, d'abord doucement, puis de plus en plus rapidement, et fondirent d'un seul coup sur les deux princes. Cependant, l'esprit de Gobert entra dans le crâne d'Arthur, et celui d'Arthur prit sa place dans le crâne de Gobert. Aussitôt, Gobert, Arthur, se mit à bouger comme jamais, et prit soin de ne pas trop manger. De son côté, Arthur Gobert en profita pour se reposer et manger. À ce rythme, Gobert Arthur se mit à fondre et à se muscler. Arthur Gobert, lui, prit du poids et ne craignait plus les courants d'air. En se regardant, les deux frères se trouvèrent très bien. Le roi et la reine appelèrent la fée pour la remercier et pour remettre chacun dans son corps, car s'il était devenu très difficile de les différencier, ce l'était plus encore de les appeler par le bon prénom. Chloé, la fée, accepta. Mais elle dit aux deux parents que c'était désormais à eux de bien éduquer leurs enfants, car s'ils reprennent leurs habitudes, cela n'aura servi à rien. Profitant de ce que les deux jumeaux se reposaient sous un arbre, la fée reprit sa baguette et lança un nouveau sort. Aussitôt, deux petits écureuils sautèrent sur les princes. Chacun prit un esprit, puis le porta chez l'autre jumeau, en fait le vrai propriétaire. Les deux princes se réveillèrent, très heureux de leurs apparences sans avoir bien compris ce qui s'était passé. Au château, le roi et la reine étaient très contents. Ils avaient retrouvé leurs enfants, chacun avec son propre corps, et tous deux en pleine forme. Ils expliquèrent à Gobert et Arthur comment manger équilibré, qu'il faut bouger, bref, ne pas se laisser aller ni en faire trop. Arthur et Gobert écoutèrent leurs parents sans rien dire. Quand le roi et la reine se turent, les fils se regardèrent. Ils dirent ensemble qu'ils avaient tout compris, mais pour que cela soit efficace, il fallait que les parents fassent la même chose. Un peu plus loin, la fée Chloé sourit. La leçon était bien passée. Elle s'en alla, heureuse du travail bien fait.
Mathéo et la balançoire, une histoire racontée par Elisabeth Copefay.
Mathéo mange au maquis tous les jours. Son amie Léa
lui dit qu'il va venir obèse si qu'il continue, mais il ne le croit pas. Un jour, Matteo retrouve son ami sur un espace de jeu. Elle est assise sur une balançoire à bascule. Matteo arrive en courant et saute sur la planche. Sous le poids, la jeune fille est projetée en l'air et disparaît à la vue de Matteo. Celui-ci est très embêté. Il décide de partir à sa recherche. Il traverse le village et arrive dans un champ. Au milieu du champ, il aperçoit une chaussure de la jeune fille. La pointe de la chaussure semble lui indiquer une direction. En suivant cette direction, Matteo arrive près d'une rivière. Là, il sent le parfum. Il vient à la côté de la rivière. Matteo se met à l'eau. Il nage contre courant. C'est difficile. Arrivé au milieu de la rivière, il remarque un crocodile. Il fonce sur lui. Il nage le plus vite possible. Il réussit à lui échapper. Il est tout essoufflé. Quand il a repris son souffle, il suit le parfum de la jeune fille. Celui-ci le mène vers une grotte. Il entre dans la grotte. Celle-ci est de plus en plus sombre. Il trouve par terre le bandeau de la jeune fille. Il le ramasse et s'apprête à partir. Mais un ours gigantesque arrive. L'ours est entre Matteo et la sortie. Matteo s'enfuit vers le fond de la grotte. L'ours le poursuit. Tout au fond, il y a une lueur. C'est une petite ouverture. Matteo arrive à passer dedans, mais c'est dur. Matteo tombe du rocher sur une plage, une toute petite plage face à l'immensité de l'océan. L'ours est coincé, mais il force. Si Matteo a pu passer, lui aussi doit y arriver. Sur cette plage, il y a un radeau. Matteo voit l'ours qui force de plus en plus et commence à passer à travers le trou. Matteo pousse le radeau dans l'eau. Il saute sur celui-ci au moment où l'ours déboule le rocher. L'ours, le voyant s'échapper, pousse un hurlement de colère. Le souffle de l'ours est tel que la voile se gonfle et le radeau est projeté à toute vitesse vers le large. Matteo s'accroche au mât. Devant lui, une énorme tourbillon approche. Matteo se fait emporter par le tourbillon. Il tourne de plus en plus vite et descend tout au fond de l'océan. Là, par chance, il trouve un petit tunnel et entre dedans. Le tunnel est profond et sombre. Matteo marche longtemps. Soudain, très loin, il aperçoit une lumière. Il court plus vite, si jamais c'était une sortie. Il sort précipitamment et s'écroule sur du sable. Il est sauvé. Il a atteint la plage, pense-t-il. Il entend une voix qui lui dit « Tu m'as laissé tomber. Je ne t'écoute plus. Tu ne penses qu'à manger. » Matteo lève la tête. Il n'est pas sur une plage, mais dans l'air de jeu près de la balançoire. Son ami Léa est assis de l'autre côté. En plus,